Bonjour Pascal Clark.
Patrick Cohen, bonjour. Bonjour à tous.
Donc on ne fera pas comme s'il n'y avait pas eu beaucoup d'autres bonjours qui ont fait partie de nos vies à la radio, mais le délit d'amitié s'arrête là où commencent les bons livres. Vous publiez Mute, Pascal, chez Flammarion, que je vais résumer ainsi. Un jour, Frania n'a plus entendu sa fille à la radio. Un jour, un autre, assez proche, Pascal Clark n'a plus entendu sa mère parler. C'est cette double perte simultanée que vous racontez, récit intime, sensible, nostalgique de votre vie de radio. Le casque sur les oreilles, le son réglé un peu trop fort, le rouge qui s'allume, le plaisir de la voix, de vos années d'enfance, remontées et descendre de la rue des Martyrs à Paris, dans cette ville que vous aimez, et d'une vie, du parcours de votre mère que vous avez accompagnée jusqu'à la chute et qui aurait sûrement été fière de vous lire, mais peut-être aussi embarrassée par cet hommage.
Ah oui, c'était pas quelqu'un qui était sur la photo, vous voyez, ça fait partie de ces femmes. Elle était née en 34, donc c'était le sacrifice permanent, c'est-à-dire que ses enfants passaient avant tout le monde et d'une manière générale, les autres. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvée dans ce double silence, hein, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai arrêté de parler à la radio, elle a arrêté de parler tout court. Elle est atteinte d'une maladie neurologique dégénérative. Mais il y avait quand même une espèce de mimétisme entre nos deux situations. On a chuté ensemble, on s'est retrouvés face au silence ensemble, dans un monde quand même de plus en plus tonitruant, avec une parole qui s'est libérée, avec quelque chose de très très bruyant. Et c'est ça que je raconte. Je suis toujours vraiment très étonnée par la synchronicité des événements et des dates notamment. Donc, et ça s'est transformé effectivement en un hommage à ma maman.
À quelqu'un qui ne se plaignait jamais.
Jamais.
Qui s'est sacrifié, qui est né un peu trop tôt pour profiter de l'émancipation des femmes, on peut dire
comme
ça.
Vous vous rendez compte, cette génération de femmes, c'est-à-dire pas la pilule, pas le droit à l'avortement, pas de péridurale quand elle a accouché de ses deux filles, il fallait encore demander l'autorisation à son mari pour ouvrir un compte en banque. C'est pas non plus il y a trois siècles, hein, c'est pas si vieux non plus. Et donc voilà, elle était du coup féministe, pas une féministe encore une fois sur la photo, mais naturellement féministe. Et son féminisme,
par son indépendance.
Oui, par sa liberté, elle a toujours eu le goût de la liberté. Et effectivement, Mute, c'est ma façon de lui rendre la parole. Et c'est un hommage à Frania, qui, petite fille, a échappé à la rafle du Veldiv en juillet 42, ce qui a été un traumatisme permanent dans toute sa vie et ce qui nous a liés aussi dans une inquiétude réciproque permanente.
Même si vous vous en voulez un peu de ne pas avoir pu davantage parler avec elle de ces années de...
Oui. C'est aussi un livre sur la parole et l'absence de parole. Je pense qu'on ne parle jamais assez à ses parents et qu'il arrive un moment où c'est trop tard. Donc, il faut absolument trouver le moment. En même temps, bon, vous savez bien que les gens qui sont sortis des camps ont mis combien, 20-30 ans à raconter. Donc, c'est pas quelque chose qu'on raconte facilement. Et puis, quand la fin arrive, même si la fin, on ne la connaît jamais, la fin de vie, c'est assez immatériel comme situation. C'est pas là qu'on va dire, au fait, raconte-moi, tu vas bientôt mourir. Vous voyez, ça se passe pas comme ça.
Qu'est-ce que vous lui devez à Frania?
Je dois pas mal de choses.
Votre caractère?
Probablement, mon sale caractère. Non, mais j'espère lui devoir l'humanité, la dignité, des choses comme ça.
Vous lui avez rendu beaucoup, en tout cas... pas seulement par ce livre, mais évidemment en l'accompagnant autant que vous pouviez, en lui évitant l'établissement, l'EHPAD, c'était une promesse.
C'était absolument une promesse, je savais, elle me l'avait dit qu'elle ne voulait pas y aller. Bon, comme elle était un peu mélodramatique parfois, c'est-à-dire ashkénaze pour tout dire, une mère juive ashkénaze, elle m'avait dit, et je la croyais bien volontiers, que si elle y allait, elle en mourrait, et je veux bien la croire, parce que je ne connais personne qui souhaite finir sa vie en EHPAD. Donc oui, j'ai tout fait pour lui éviter ça, mais c'est très compliqué en réalité, parce qu'il y a un vrai scandale sur la façon dont les personnes âgées...
Oui, c'est un luxe. Garder une personne âgée impotente à domicile, ça coûte très cher.
Ça coûte très très cher.
Et ça vous révolte que ce soit difficile.
Oui, ça me révolte, parce que ça, c'est pas besoin d'être un politique inspiré, vous voyez, c'est écrit dans la démographie. Donc on vit de plus en plus vieux et on devient vieux de plus en plus jeune en mettant toute cette partie de la population, on les entend pas, les gens âgés, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeunisme permanent, alors qu'ils ont des trésors évidemment de mémoire et de transmission, donc ça je comprends pas bien. Et les EHPAD, oui malheureusement, c'est un scandale, les EHPAD, on le sait bien, enfin... Donc voilà, j'ai réussi à tenir cette promesse jusqu'au bout. Bon, elle a eu aussi l'élégance de partir avant qu'il n'y ait plus du tout d'argent, parce que là, on était à la fin.
Et après, tout de même, un détour par l'hôpital. Votre mère y est amenée en urgence. Elle passe tout près de la mort. Et vous entendez l'interne vous dire...
Il n'y aura pas d'acharnement. Je ne suis même pas sûre qu'il ait dit bonjour avant. C'est-à-dire que, faute de moyens, j'imagine, hein, on est arrivé dans une situation où l'hôpital public est complètement déshumanisé. C'est-à-dire que l'obsession, on l'a bien senti, l'obsession, c'était qu'elle libère son lit d'enrées rares, d'une façon ou d'une autre. Donc la famille est très importante. J'ai découvert qu'il y avait un combat à l'hôpital public aussi. Attention, hein, je ne jette pas la pierre au personnel hospitalier qui est admirable, on le sait bien, mais il faut le redire. Ce sont des gens admirables qui font leur possible sur un champ de ruines. Donc là, c'est pareil, mettez de l'argent dans l'hôpital public parce que ça concerne absolument tout le monde, même si on n'imagine pas ça quand on a 20 ans.
Pas d'acharnement. Or, votre mère était immobile, elle ne parlait pas, mais elle était consciente.
Elle avait toute sa tête.
Vous communiquiez ?
On communiquait d'une façon ou d'une autre, La communication passait, on a beaucoup ri, ça peut paraître curieux, mais on a beaucoup ri toutes ces années, là, sur la fin. Elle passait sa vie dans un lit, vous vous rendez compte ? Alors, tant qu'on a pu, on est descendu, ce qui était une entreprise très périlleuse. Et là, c'est pareil, vous découvrez ce que ça fait d'être dans la ville, dans un fauteuil roulant, c'est-à-dire que c'est impossible, en réalité. Il y a 302 stations de métro à Paris. Vous savez combien sont accessibles aux handicapés ?
Une dizaine, je crois.
Oui, il y en a 9, et encore quand les ascenseurs ne sont pas en panne, c'est un véritable scandale.
Frania, votre mère qui, avant que vous ne tombiez ensemble, Pascal Clark, vous a écouté tous les jours, à la radio, sur toutes les fréquences, et qui vous disait quand ça ne lui plaissait pas, elle vous le disait.
Ah oui, ça, vous étiez son journaliste préféré, je voulais vous dire.
Ah, zut ! Alors on parle de radio, de votre passion pour la radio. Dans un instant, Pascal Clark, invité de C'est arrivé cette semaine.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine.
Et avec Pascal Clark, journaliste. Oui, journaliste, j'ai toutes les preuves. À France Info, Europe 2, Europe 1, RTL, France Inter, Canal+, j'en oublie, qui publie chez Flammarion Mute, comme le nom du bouton sur le transistor ou la télécommande qui permet de couper le son. Coupure douloureuse. Pascal, la radio, c'est une drogue ?
Bah oui, fatalement, c'est une drogue. C'est-à-dire, il y a cette montée d'adrénaline quotidienne pendant des décennies. Et d'un seul coup, plus rien. Tous les spécialistes vous le diront. Hein. Arrêter la drogue brutalement, c'est pas recommandé. Donc oui, il y a eu un gros manque, oui, effectivement.
Et la radio en direct ?
Bah oui, je suis de la vieille école, en fait. Même si j'ai créé un site de podcast qui s'appelle Boxon, mais c'est le direct que j'aime. C'est là où tout est possible. Vous voyez, là, on est en direct, il est 9h51.
Ouais. Et on n'est pas filmé.
On n'est pas filmé, merci pour ça. Et on peut se dire que tout peut arriver, voilà. Même si tout n'arrive pas.
Ouais. Et la radio, au quotidien, parce que très vite, une émission en efface une autre. C'est l'ardoise magique.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Là, on ne se comprend plus, Patrick.
ça veut dire que vous dites dans votre livre que vous avez aimé la radio au quotidien, où on ne se pose pas de questions sur... sur ce qu'on doit faire jour après jour, parce qu'une aventure, un projet, l'émission du lendemain efface celle qu'on vient de faire.
Oui, c'est ça, c'est le côté éphémère avant le replay, hein, évidemment. Moi, je viens d'un temps où... il n'y avait pas... Voilà, soit on était là, soit on n'était pas là, et on ne pouvait pas rattraper. Et donc, je trouve ça absolument épatant qu'on puisse maintenant écouter toutes ces émissions en replay.
Ah oui, donc ça, c'est bien.
Ah oui, oui, bah évidemment. Je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant. Hein, c'est ridicule comme phrase. Oui. Mais moi, ce que j'aime, c'est partager le moment avec ceux qui sont de l'autre côté et dont on ignore tout. Oui. Voilà, c'est le côté magique. Et puis, vous savez comment votre voix peut absolument partir n'importe où, et y compris dans des situations que vous ne soupçonnez pas. C'est ça qui est très, très émouvant. Et depuis que je ne parle plus à la radio, c'est vrai que j'ai des témoignages comme ça après coup, et je trouve ça dingue, quoi.
De gens qui se souviennent,
oui, qui se souviennent
de moments de particuliers, de phrases que,
oui, des moments qu'on a partagés,
des échanges. Ouais.
Voilà, sauf que moi je ne pouvais pas le savoir. Eux le savent, mais pas moi. Donc oui, tout ça est très émouvant.
Et ça ne reste généralement que dans les mémoires, parce que malgré tout ce travail, ces pages d'écriture, ces efforts de mise en onde, ces échanges avec des invités, tout ça s'envole à l'instant où c'est diffusé, sauf pour quelques archivistes ou maniaques qui vont aller chercher les podcasts.
Mais c'est le jeu de l'éphémère et moi je trouve ça beau l'éphémère, il faut jouer ce jeu-là.
Vous n'êtes jamais demandé si ces plaisirs éphémères en valaient la peine?
Mais bien sûr que ça en vaut la peine, le présent en vaut la peine.
Non, on laisse une trace à la radio?
Non, je crois pas, non. Mais c'est bien comme ça.
Oui, parce que votre livre, lui, il va rester. Il sera à portée de main alors que les émissions s'envolent.
Exactement. Le livre, c'est pérenne, c'est un objet. C'est un bel objet. Il est très beau, ce livre, je veux dire, physiquement, hein, après. à l'intérieur, je ne sais pas. Mais, et ça reste, un livre, ça reste, ouais.
Alors, je disais que tout s'efface. Non, pas tout à fait. Écoutez.
Bonsoir, direction immédiatement le stade Saint-Siro, le Milan AC face à Monaco. Le score, Eugène Saccomano?
Le score est toujours de 3-0 pour l'équipe de Milan, de même qu'à Barcelone. Barcelone mène devant Porto 3-0.
A tout de suite, le football européen de retour dans un instant. Blanc, noir ou métis, ils votent et font mourir l'apartheid. Les appareils photos ont crépité comme éblouis par le sourire de celui qu'ils visaient. Nelson Mandela a voté. Reportage François Clémenceau dans le journal de Christophe Dolay à 22h30. Europe Nuit, le casting, coordination Élodie Pigeon, réalisation Patrick Burle. À la console ce soir, Fred Dervin. C'est Europe Nuit jusqu'à minuit. Bonsoir.
Elle parle un peu vite, la fille. Là.
Europe Nuit du 27 avril 1994. Elle est pressée d'arriver à l'heure à 22h30, c'est juste ça,
ça
simplement.
Ça, ouais.
Émission qui était un peu tardive pour Frania, votre maman, Pascale Clark.
Ben oui, ben c'était ma plus fidèle auditrice, et comme j'ai pas mal changé d'antenne, et que on peut pas dire que ça plongeait dans le numérique et était très performante, donc elle écoutait toujours sur un petit transistor, quand même, en FM, hein, faut pas exagérer, pas en grande onde, et à chaque fois que je changeais de fréquence, oui, je réglais son petit transistor. Et elle n'était pas du soir, donc voilà, j'ai fait le soir sur France Info, j'ai fait le soir sur Europe 1, on vient de l'entendre. Et je pense qu'elle n'a pas tenu toujours, et elle était du matin. Donc elle me faisait croire qu'elle était là, mais je ne pense pas en réalité.
Et le matin, vous parliez plus lentement pour elle?
Je ne me souviens pas avoir parlé pour elle, mais je sais qu'elle était là, je le savais quelque part, oui.
Bon, si la radio vous manque, je crois pouvoir dire que vous manquez à la radio?
Je ne sais pas. Ça...
Vous ne savez pas?
Bah non, comment vous voulez que je sache? Non, je pense que... Tiens, il y a quelqu'un qui rentre dans le studio.
Oui, c'est Olivier Duhamel qui va nous présenter le sommaire de Mediapolis. C'est l'émission qui vient ensuite. Voilà. C'est le direct.
Non, la radio me manque. Après, le manque, vous voyez, y a d'autres... Bonjour, vous allez bien? Non, mais j'ai d'autres intérêts dans la vie, donc ça va, ça m'a beaucoup manqué, ça manque encore un peu, mais les radios continuent, c'est très bien comme ça.
Il faut vous lire Pascale Clark, Mute, chez Flammarion, Mute ou Mute comme la...
La mutation.
La mutation aussi. Merci beaucoup Pascale pour ce livre et pour ce moment de radio en direct et sans caméra.
Merci Patco, merci beaucoup Patco.